VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 24 octobre 2016. À la une ce soir, journée ville morte dans plusieurs quartiers de Bangui, la capitale centrafricaine. La société civile demande le retrait de la MINUSCA, accusée de passivité face aux groupes armés. Burundi, 5 organisations de la société civile sont définitivement radiées, mesure prise par le gouvernement qui les accusait de ternir l'image du pays. Les autorités françaises, déterminées à raser la jungle de Calais, les migrants ont commencé à évacuer le bidonville aujourd'hui. En Irak, les alliés font face à une forte résistance des djihadistes près de la ville de Mossoul. J-15 pour la présidentielle américaine. Donald Trump et Hillary Clinton tentent de consolider leur base pour un fort taux de participation, surtout dans les États décisifs, le jour du scrutin. Et bien sûr, on aura l'économie et les sports juste après le journal. Dans l'est de la RDC, l'armée congolaise annonce l'arrestation d'un chef rebelle des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dans le Rutshuru, dans le Nord Kivu. Il s'agit de Habyarimana Musebo Sufuni, commandant en charge des renseignements à l'état-major général des FDLR, rebelle hutu rwandais accusé de nombreuses exactions au Congo. Il a été arrêté dimanche à Kiwanja.
Et dans l'est de la RDC, toujours 6 militants de Lucha viennent d'être arrêtés à Goma. Ils distribuaient des messages appelant la population à 2 journées ville morte et des sit-ins pour protester contre les résultats du dialogue de Kinshasa.
Au Burundi, 5 organisations de la société civile ont été définitivement radiées. Le ministère de l'Intérieur affirme que ces organisations étaient clandestines et qu'elles ternissaient l'image du pays. Un non-événement pour les organisations concernées qui se disent plus déterminées que jamais à plaider pour la population. De Bujumbura, Christophe Nkurunziza nous en dit plus.
Par une ordonnance ministérielle, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagié, a signé la semaine dernière la radiation de 5 organisations de la société civile. Ces organisations sont le Forum pour le renforcement de la société civile, Force qu'en sigle, l'Association pour la promotion des droits humains et des prisonniers à Prodh, le Forum pour la conscience et le développement Focodé, l'Association contre la torture ACAT et le RCP, Réseau des Burundais Probre. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a commenté dimanche cette ordonnance, a indiqué que ces organisations ont continué à travailler dans la clandestinité et noircissent l'image du Burundi. Terence Nahiraja a appelé les responsables administratifs et se charger des mesures de sécurité à prendre des mesures adéquates qui s'imposent. Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, pour lui, cette annonce est un non-événement car le gouvernement de facto du Burundi n'a plus les compétences de suspendre ces organisations. Pour Nshimirimana, cette ordonnance démontre une rancune que le gouvernement a envers les associations de la société civile qui ont pris le devant pour dénoncer et rejeter la violation de la Constitution et les accords de paix d'Arusha. Pour le président du FORSC, ils vont continuer à enquêter sur les violations des droits de Burundais et de plaider pour la population. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Burkina Faso, le parti du président Rochemarc Christian Kabore accuse les pro-Compaoré d'être à l'origine de la nouvelle tentative de coup d'État déjouée début octobre. C'est ce qu'indique un communiqué cité par l'AFP. Il faut dire que le gouvernement du Burkina a affirmé avoir déjoué au début du mois une nouvelle tentative de coup d'État préparée par des membres de l'ex-garde prétorienne du président Blaise Compaoré, dissoute après l'échec d'un précédent putsch en novembre 2015. La récente intention des soldats de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, de s'attaquer aux garnisons militaires où sont détenus les putschistes, confirme qu'il s'agit là d'initiatives coordonnées, civiles et militaires, concourant aux mêmes objectifs, à savoir libérer leurs chefs détenus et restaurer l'ordre ancien, écrit le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP.
Mali, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, se dote d'un nouveau chef. Il s'agit de Bokary Traité, ancien ministre de l'Agriculture. Mesure prise en vue des élections municipales du 20 novembre, premier scrutin depuis la présidentielle de 2013. Les municipales ont été constamment repoussées en raison de l'instabilité au Mali. Elles ne devraient néanmoins pas se tenir dans les 5 régions administratives du Nord, où seront prochainement mises en place des autorités intérimaires en vertu de l'accord de paix signé en mai-juin 2015.
Le gouvernement nigérien a supprimé les postes militaires dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Mesure prise 10 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 22 soldats qui assuraient la sécurité de réfugiés dans le sud-ouest du Niger. Le gouvernement opte désormais pour des patrouilles militaires, selon un responsable du ministère de l'Intérieur.
Déraillement d'un train, Yaoundé, Douala, un nouveau bilan fait état d'au moins 79 morts et plus de 500 blessés. C'était à la suite de l'accident de vendredi au Cameroun. Le pays observe aujourd'hui une journée de deuil national. Les drapeaux sont en berne. L'Église catholique a appelé à des messes de recueillement dans tout le pays.
Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et accusé de s'être bâti indûment en France un patrimoine considérable, sera jugé à partir du 2 janvier à Paris et dans l'affaire des biens mal acquis. Et le point avec Nani Talani.
Théodorine Obiang-Gema n'était ni présent ni représenté à l'audience de ce lundi. Le cabinet de son avocat a refusé le pli qui lui était adressé pour requérir sa présence. Âgé de 47 ans, promu vice-président de la Guinée équatoriale fin juin par son père Théodoro Obiang-Gema au pouvoir depuis 37 ans, il est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Depuis son inculpation en 2014, il a tenté en vain de faire annuler les poursuites en invoquant son statut à l'époque de deuxième vice-président de Guinée équatoriale qui lui octroyait une immunité. La Cour de cassation, la plus haute juridiction française, avait estimé que les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée, donc détachables des fonctions étatiques. M. Obiang a saisi la Cour internationale de justice à La Haye pour demander une suspension des poursuites en France. Un procureur français estime que cette plainte a de très faibles chances d'aboutir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, l'offensive pour la reprise de Mossoul se poursuit, mais la résistance des djihadistes s'accroît au fur et à mesure que les forces irakiennes s'approchent de la deuxième ville du pays. Anastasie Tudiech.
Les dizaines de milliers d'hommes convergent vers le fief du groupe État islamique. Les combattants kurdes Peshmerga sont déjà à Bashika, à 25 km de Mossoul. Au sud-est, des forces d'élite irakiennes se battent pour reconquérir Karakoch, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Le groupe islamique ne va pas leur rendre la tâche facile. Son attaque surprise vendredi à Kirkouk, à 170 km de Mossoul, a été mise en échec. Selon Najmeddine Karin, gouverneur de la province, 74 djihadistes et 46 membres des forces de sécurité ont été tués. Le groupe djihadiste a mené hier une attaque à Rutba, à l'ouest, où il a exécuté au moins 5 Irakiens. Brett McGurk, émissaire du président américain au sein de la coalition, précise qu'en une semaine, les raids aériens ont permis de détruire 136 positions ennemies, mais se garde bien de faire des pronostics sur la durée des combats.
Ce matin, à l'aube, les premiers bus ont quitté la jungle de Calais et direction plus de 200 centres d'accueil et d'orientation répartis en France. Les migrants vont pouvoir y déposer une demande d'asile. L'opération doit se dérouler durant plusieurs jours et le démantèlement de la jungle commencera à partir de mardi. Salwa Jafari.
Transportant leurs maigres possessions dans des sacs et des valises, les migrants attendaient calmement dans de longues files d'attente l'arrivée des bus ce matin, à l'heure où les autorités commençaient à évacuer ce qu'on appelle ici la jungle. Certains sont soulagés, d'autres résignés. Ces migrants venus d'un peu partout vivent depuis des mois dans la boue et les abris précaires du camp de Calais. Aziz Ahmed est un Soudanais de 27 ans. Il a hâte de partir.
Yes, jungle is terrible place. I don't like it.
Oui, la jungle est un terrible endroit. Je ne l'aime pas. Je veux partir. Il fait très froid. Il y a trop de migrants confrontés à de nombreux problèmes.
En début d'après-midi, plus d'un millier de personnes avaient embarqué dans 25 cars pour rejoindre l'un des centres d'accueil répartis à travers la France. Le démantèlement doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Le camp accueille entre 6400 et 8100 habitants, venus en majorité d'Afghanistan, du Soudan et de l'Érythrée.
crise migratoire, un avion français effectuant des missions de reconnaissance en Méditerranée pour repérer notamment les routes de trafic d'êtres humains et de drogue, s'est écrasé ce matin à Malte, tuant les 5 passagers à bord. L'appareil s'est écrasé peu après son décollage. Dans son communiqué, le ministère français de la Défense a refusé de préciser la destination de l'avion, l'objet de sa mission de reconnaissance et si toutes les victimes étaient de nationalité française. Mais le gouvernement maltais affirme que tous les occupants étaient des Français.
Une personne a été tuée et 18 autres blessés par l'explosion d'une bombe ce lundi devant un restaurant dans l'extrême sud de la Thaïlande, d'après la police. Cette région, on rappelle l'AFP, est en proie à une rébellion séparatiste musulmane. Les musulmans locaux revendiquent plus d'autonomie pour cette région frontalière de la Malaisie, qui n'a été rattachée à la Thaïlande, majoritairement bouddhiste, qu'au début du XXe siècle. Depuis 2004, le conflit a fait plus de 6600 morts, majoritairement civils.
Les élections auront lieu aux États-Unis dans 2 semaines à peu près, mais les Américains ont déjà commencé à voter. Pas moins de 37 des 50 États proposent le vote anticipé en personne ou le vote par courrier, selon des règles variables. En 2012, un tiers des bulletins de vote ont ainsi été transmis en avance, selon le Bureau du recensement. Un record qui devrait être battu cette année, selon le camp Clinton cité par l'AFP. Nous reviendrons sur la présidentielle dans notre Parti Magazine.
Et l'Américain Tom Hayden, qui a été pendant les années 1960 l'un des plus virulents opposants à la guerre du Vietnam, avant d'être élu au Sénat et à l'Assemblée de Californie, est décédé dimanche soir à l'âge de 76 ans. Son épouse, l'actrice canadienne Barbara Williams, expliquait que son décès survenu à Santa Monica en Californie était dû à des complications après un accident vasculaire cérébral en 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge, la Minute Éco.
La Banque africaine de développement a nommé 3 nouveaux vice-présidents. Il s'agit d'Amadou Hoth, chargé du secteur électricité, énergie, climat et croissance verte, de Pierre Ghislain pour le secteur privé, l'infrastructure et l'industrialisation, et de Khaled Chérif en charge du développement et de l'intégration régionale. Le groupe Dangote licencie des cadres afin de réduire ses coûts d'exploitation. 36 des 48 personnes déjà licenciées sont des expatriés. L'indisponibilité des devises conjuguées à une hausse sans précédent du taux de change a entraîné une augmentation des coûts opérationnels, a déclaré Aliko Dangote, le milliardaire nigérian. La Banque européenne d'investissement a ouvert un bureau pour l'Afrique centrale à Yaoundé. Son 6e bureau en Afrique subsaharienne sera ouvert à Abidjan en novembre. En 2015, la BEI a octroyé 80 milliards d'euros de prêts à plus de 400 projets.
Place à l'actualité sportive avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
La Confédération africaine de football a procédé ce lundi au tirage au sort des CANs des moins de 17 ans et des moins de 20 ans qui se tiendront l'an prochain à Madagascar et en Zambie, Nicolas.
Oui, dans le groupe A pour la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, on retrouve la Zambie, le pays organisateur, ainsi que la Guinée, l'Égypte et le Mali. Dans le groupe B, les Sénégalais feront face aux Camerounais, aux Soudanais et aux Bafana, les Sud-Africains. On parle à présent de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Dans le groupe A, le pays organisateur Madagascar avec la Guinée, le Cameroun et le Ghana. Et dans le groupe B, le Mali, le Congo, l'Angola et le Niger.
La liste des prétendants au Ballon d'Or se rétrécit.
Oui, Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid, meilleur buteur de l'Euro, et surtout Cristiano Ronaldo, grand favori pour le trophée, figure parmi les 30 postulants au Ballon d'Or. C'est ce qu'a annoncé ce lundi France Football. CR7 qui a remporté la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid au printemps, puis l'Euro 2016 avec le Portugal cet été, fait figure d'archi-favori pour succéder au tenant du titre Lionel Messi. On rappelle que l'attaquant portugais vise son 4e Ballon d'Or après ceux obtenus en 2008, 2013 et 2014.
Étude écossaise inquiétante sur le jeu de tête qui affecterait la mémoire des footballeurs. Qu'en est-il ?
Le jeu de tête peut avoir un impact significatif sur les fonctions de la mémoire et du cerveau, selon les résultats d'une étude scientifique menée par l'université écossaise de Stirling. Les capacités de la mémoire peuvent être ainsi réduites de 41 à 67% selon les résultats de cette étude. Et cependant, les 24 heures suivant une séance de jeu de tête, la recherche se base sur une série de 20 têtes effectuées par un groupe de joueurs reprenant un ballon propulsé par une machine à la vitesse et la puissance d'un ballon tiré depuis un poteau de corner.
Le retour de la NBA sur les parquets nord-américains, parlons basket.
Avec l'arrivée de Kevin Durant à l'intersaison, Golden State a conforté son statut de terreur de la NBA, mais il en faudrait plus pour décourager les champions en titre Cleveland et LeBron James. Avant le coup d'envoi de la saison, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. King James a tenu parole en juin dernier, il a offert à Cleveland le premier titre de son histoire au terme d'une finale au scénario palpitant et improbable. La mégastar de la NBA, épaulée par Kyrie Irving, a assommé les Warriors de Stephen Curry, qui menait pourtant 3-1 lors de cette finale. LeBron James a répété « Notre objectif cette saison est de tout faire pour conserver le titre à suivre. »
Merci Nicolas Pinault.
Morgane Guirieg et Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour.
Bangui, capitale de la République centrafricaine, paralysée ce lundi par une journée ville morte à l'appel de la société civile. Ce mouvement organisé pour exiger le départ de la MINUSCA s'est soldé par la mort d'au moins 3 personnes. De nombreux blessés sont aussi à déplorer, Freeman Sipila.
L'appel du groupe de travail de la société civile a été largement suivi. Ceci en dépit de l'appel au boycott lancé par le gouvernement. Toutes les activités ont été paralysées. Aucune structure, même de l'État, n'a ouvert ses portes. Tous les marchés sont restés fermés et la circulation totalement paralysée. La société civile a appelé à cette mobilisation en marge d'une pétition en circulation depuis la semaine dernière, exigeant le départ de la MINUSCA de la République centrafricaine. La mobilisation a dégénéré entre forces de la MINUSCA et manifestants dans le premier arrondissement. Bilan, 3 civils tués et 3 autres blessés selon la police. Face à cette situation tendue, l'archevêque de Bangui, cardinal Dieudonné Zapalainga, appelle au calme.
La Centrafrique aspire à la paix. Centrafrique voudrait qu'il y ait la sécurité. Il revient à nous, Centrafricains, d'être les artisans de paix. Or, avec la colère qui est montée, nous ne saurons plus nous contrôler. En même temps, je lance un appel aujourd'hui au gouvernement qui a comme mission de protéger, d'assurer la sécurité des Centrafricains. Depuis un certain temps, nous avons un regain de violence ici à Bangui, à l'intérieur. C'est tout cet engrenage qui a fait le nid de ce ras-le-bol aujourd'hui.
Niant l'implication de ses forces dans l'incident, la MINUSCA affirme être toujours du côté des autorités de la population centrafricaine. Le Conseil national de la jeunesse appelle la jeunesse centrafricaine au calme et à la retenue. Francis Mongombe, son président.
Nous comprenons aujourd'hui que la préoccupation du centrafricain reste celle de la paix, du retour à la stabilité. Mais le Conseil national de la jeunesse reste convaincu que la voie de la violence ne mène qu'à la violence et à la mort. Et donc, nous appelons les jeunes, vraiment les jeunes, à ne pas céder à cette tentation de violence, car l'avenir nous a toujours montré que c'est toujours ces jeunes-là qui sont utilisés comme les chairs à canon, les gilets pare-balles, des intérêts que nous ne maîtrisons pas.
La CFPR, Coalition des femmes pour la paix et la reconstruction, appelle elle aussi les différentes parties au dialogue. Marie-Soulange Pagonedine Dakala en est la coordonnatrice.
Ce qui se passe nous interpelle tous. Il faut reconnaître quelque part qu'il y a un moment de colère. Si aujourd'hui la société civile a décidé de descendre dans la rue, c'est qu'il y a une raison. Et par rapport à cette raison, pour ma part, je crois qu'on aurait pu les appeler pour que les gens se mettent autour de la table et se parler franchement. Peut-être que les gens ont l'impression que rien ne bouge. Pour eux, ils pensent que les Centrafricains qui sont en train de mourir ne doivent pas mourir. Pour quelle raison? Pour quelle cause?
À Bangui, la journée des Nations Unies célébrée ce jour est reportée à une date ultérieure. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Burundi, la journaliste américaine Julia Steers a quitté Bujumbura après sa brève interpellation hier. La journaliste basée à Nairobi était en compagnie de son confrère burundais Jidas Yihundimpundu et du chauffeur qui les accompagnait en reportage dans un quartier de la capitale. Ces derniers ont été libérés aujourd'hui. Suite aux violences provoquées par la crise électorale au Burundi, les journalistes travaille dans un contexte très difficile. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec le journaliste burundais Eloge Willy Kaneza, récipiendaire du prix Peter McClure 2016, qui lui a été décerné pour son travail au sein du groupe SOS Média Burundi.
Depuis l'an passé, il y a une centaine de journalistes qui ont fui, il y a des médias indépendants qui ont été détruits et certains journalistes sont assimilés aux opposants. Vous voyez qu'il y a une certaine opinion qui, jusqu'à aujourd'hui, voit des journalistes indépendants ou des journalistes des médias privés comme tels. Mais aussi, le Burundi, c'est pas comme d'autres pays, comme ici aux États-Unis où c'est un vaste pays. Tout le monde connaît tout le monde, que ce soit les bourreaux, que ce soit les victimes. Et en fin de compte, le journaliste qui est aussi burundais, il connaît tout le monde. Il peut se trouver que parmi ces catégories de gens, il se trouve des parentés ou des voisins. Vous voyez, c'est toujours très, très sensible d'être journaliste sur le terrain. C'est pourquoi le professionnalisme s'impose quand on est sur le terrain.
Est-ce que cela vaut la peine de prendre tous ces risques-là pour informer les Burundais?
Ça vaut la peine de prendre tous ces risques parce que, en tant que journaliste, j'aime le dire, il n'y a aucun autre moyen de servir notre nation. Parce que quand on reporte de façon neutre, de façon impartiale, de façon professionnelle, nous contribuons à la promotion des valeurs de la paix, des valeurs de réconciliation, des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté d'expression et des libertés fondamentales.
Est-ce que ce travail que vous exercez dans un contexte très difficile est compris par les Burundais ?
Il est compris par les Burundais, je crois. Même ceux qui ne le comprennent pas, je crois qu'ils essaient de se voiler la face. Sinon, tout le monde connaît ou devrait connaître et comprendre l'apport des médias. On n'est pas là pour soutenir tel ou tel, même s'il y a des gens qui le pensent ainsi. Nous, médias, on est là juste pour reporter ce qui se passe, pour montrer aux gens ce qui ne va pas, mais aussi pour montrer tous ces efforts, ce qui va dans le pays, tous ces efforts de femmes, tous ces efforts des jeunes qui, malgré la pauvreté, qui, malgré la crise, qui, malgré les problèmes qu'endure le pays, arrivent à se mettre dans des associations, arrivent à s'entraider dans la communauté. Il n'y a pas que de mauvaises choses que l'on doit rapporter.
Voilà, c'était le journaliste burundais Eloge Willy Kaneza, récipiendaire du prix Peter McClure 2016.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Cameroun observait ce lundi une journée de deuil national suite au déraillement d'un train vendredi dernier à environ 200 km de la capitale Yaoundé. Le bilan est maintenant d'au moins 79 morts. Des centaines de blessés ont été transférés dans les hôpitaux spécialisés. Un bilan qui pourrait s'alourdir car de nombreux passagers sont encore coincés dans les décombres. À ce jour, les familles sont à la recherche de leurs proches dans les hôpitaux et les morgues. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Mustapha Abo, 45 ans, est arrivé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé à la recherche de la dépouille de sa sœur qui est décédée dans cet accident. Il confie que son beau-frère, rescapé de l'accident, a confirmé qu'elle était bel et bien morte.
Je viens me renseigner, on dit que non, L'État camerounais a dit qu'il se prend ça en charge. Ils n'ont qu'à dire à ces gens de bien orienter. Et même maintenant, je les interpelle d'appeler Cameroun et appeler tous les médecins qu'on dise d'où se trouvent les corps.
Le gouvernement a par ailleurs annoncé que 75 corps ont été évacués dans les morgues à Douala et Yaoundé. La morgue de ces cas peut contenir au maximum 15 corps.
Manuel Junior.
Lène Prudence, 62 ans, est inconsolable après avoir découvert le corps de son fils à la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé. Son frère aîné, Lène Rigobert, raconte qu'ils ont finalement retrouvé son corps à Yaoundé après l'avoir cherché en vain à Douala.
Mieux sous le train. C'est comme ça que j'ai reçu l'information de la mort de mon petit frère.
Quand mon petit frère est sous le train, il est encore vivant. Il me dit qu'il respire encore, pas de secours.
Nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait personne.
Donc c'est à 17h qu'il m'informe qu'on vient de retirer le corps sous le wagon.
Selon le gouvernement camerounais, les services de secours et les responsables d'hôpitaux, il y a plus de 75 personnes décédées, soit 55 morts sur le coup et 20 autres dans les hôpitaux. Vincent Abanda, un étudiant de 21 ans, explique que la dépouille de sa sœur jumelle a été retrouvée dans la brousse à Esseka 30 heures après l'accident.
Elle ne va pas bien. Elle ne va vraiment pas bien. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir sa face, son dos, l'intérieur de la poitrine, ça ne va pas.
Après l'accident, le président de la République, Paul Biya, a exprimé ses condoléances aux familles éprouvées et a demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour assister les victimes.
J'ai prescrit une enquête approfondie pour établir les causes profondes de cet accident. Et j'ai également prescrit que les formations hospitalières qui vont recevoir les blessés, les soins auprès de l'État.
Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Présidentielle américaine 2016, à deux semaines de l'élection, les candidats Hillary Clinton et Donald Trump sillonnent les États-clés, l'Ohio et l'un de ces États, où des immigrés, dont ceux d'origine africaine, s'apprêtent à voter pour la première fois. Et des volontaires vont à leur rencontre pour les convaincre d'aller voter le 8 novembre, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de Caroline Presutti, présenté par Jacques Aristide.
Betula Moussa, d'origine kényane, n'a pas encore atteint l'âge de voter. Pourtant, elle reconnaît l'importance de cette élection.
Ceci est pour tous les immigrants. Votre vote compte. Il faut le faire.
En une seule journée, elle a frappé à 60 portes dans son quartier de Columbus, dans l'Ohio. Et rien qu'une seule personne d'inscrite.
You're 20, girl. Why you don't want to vote?
Benaka.
T'as 20 ans et pourquoi tu ne veux pas voter ?
Même à la prière du vendredi, les musulmans sont appelés à se faire enregistrer.
Soyez de la partie, c'est important. Il s'agit d'une obligation islamique.
Halima Mohamed s'est inscrite afin de voter pour toute la première fois dans sa vie.
Si vous voulez que les choses changent, eh bien, vous n'avez qu'à commencer par vous-même.
Et à Cleveland, les volontaires offrent du pain gratuitement pour inciter les hispaniques à s'inscrire. Pour Gilbert Ruiz, les électeurs de sa communauté cherchent des garanties.
Si tu ne fais rien pour moi, je ne voterai pas pour toi.
Autre initiative, cette fois-ci dans ce quartier asiatique, une communauté qui se sent marginalisée. Terry Wong était un partisan de Bernie Sanders.
Even in Bernie's campaign, he would give a list of all, you know, all the major ethnic minorities, and he somehow every once in a while he'd forget the Asians.
Même durant la campagne de Bernie, il donnait la liste des minorités et de temps à autre, il omettait les Asiatiques. Nous estimons que notre voix n'est pas entendue comme cela aurait dû l'être.
Convaincre les gens à se faire enregistrer est déjà tâche ardue. Les persuader à se rendre aux urnes sera une autre paire de manches. Richard Exner, un analyste de données au sein de la firme Cleveland.com, suit de très près le vote des immigrés.
Comment les gens votent et quel sera le taux de participation? Nous allons le voir le jour de l'élection parce que depuis que ce groupe connaît cet accroissement si rapide ces derniers temps, nous ignorons les tendances de l'Ohio.
Les immigrés de l'Ohio représentent environ 8% de la population, un pourcentage qui n'est pas énorme, mais qui, d'après les analystes, pourrait faire basculer l'élection dans l'un ou l'autre camp.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été dirigée par Georges Léonard Sagnon avec l'assistance de Joe Gill à la console. À la présentation, Morgane Guiriec et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions. On maintient donc la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.